France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Il sort son 18e album en plus de 50 ans de carrière et il se balade encore et toujours, sourire en coin et regarde dans les nuages. Comment cultiver la joie? On en parle avec Louis Chédid tout à l'heure à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critique. Et aujourd'hui, on parle du procès de Jeanne, un spectacle de et avec Judith Chemla, mise en scène par Yves Bonnen et de Cosi Fan Tutti, et pas Fan Tutte, d'après Mozart, mise en scène par Antonio Cuenca Ruiz. Voilà, vous avez le programme. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à nos critiques du jour. Zoé Sfès, productrice de la série musicale tous les samedis sur France Culture. Bonjour, vous êtes avec nous par téléphone aujourd'hui.
Et oui, car un petit virus méchant. Bonjour à tous.
Bonjour. Et Anna Sigalevitch qui est avec nous sur le plateau, journaliste et autrice. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux. Il y a 10 ans tout juste, ils avaient marqué les esprits avec leur premier spectacle, L'annonce faite à Marie de Paul Claudel. C'était déjà aux Bouffes du Nord. Et c'est là qu'on avait vraiment découvert la voix chantée de la comédienne Judith Chemla. Judith Chemla est cette fois à la fois l'initiatrice et la co-conceptrice du spectacle dont on va parler, Le procès de Jeanne. Elle retrouve Yves Bonnen à la mise en scène et le compositeur Camille Rocailleux pour la musique. Le livret est directement inspiré des minutes du procès de Jeanne d'Arc en 1431, à l'issue duquel, vous le savez évidemment, elle sera condamnée au bûcher. Sur scène, Judith Lapucelle, 6 musiciens-chanteurs et en surplomb, sur un écran, ceux qui vont la juger. On va commencer avec un avis rapide et c'est à vous que je donne la parole, Zoé.
Alors moi, je trouve que c'est une très belle entreprise d'objets scéniques, musicales, resserrés, avec des trouvailles scénographiques à la fois simples et assez bouleversantes. Un travail musical qui m'a vraiment beaucoup convaincue. Après, c'est la force de Judith Chemla, qui n'est plus maintenant une actrice qui chante, mais vraiment, je trouve, une chanteuse, de porter ce sujet, de réinvestir la figure de Jeanne d'Arc, même si moi, c'est ma toute petite réserve. Je reste un tout petit peu à distance du sujet.
Anna Sigalevitch.
Oui, moi je partage l'enthousiasme de Zoé. Je trouve que c'est un très très beau spectacle, que toutes les composantes en fait jouent magnifiquement en scène ensemble. La musique, la scénographie, la façon dont c'est écrit, la vidéo aussi, avec au centre de tout ça. Vraiment, elle est au centre au sens propre et figuré. Judith Chemla, qui a une puissance d'incarnation, une vérité, une intensité, une malice aussi en scène, qui sont tout à fait extraordinaire.
Alors, avant de continuer à en discuter, on va écouter un petit extrait de ce procès de Jeanne sur la scène du Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Le procès de Jeanne au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Zoé Sfès, avant tout, là, ce qu'on entend, ce qui éclate au grand jour, c'est Judith Chemla.
C'est Judith Chiemla qui est vraiment la personne qui porte ce spectacle dans tous les sens du terme, puisqu'à la fois elle chante, c'est la seule personne qui est sur scène totalement avec nous, qui incarne Jeanne d'Arc, puisqu'en fait elle est seule, et c'est l'une des grandes forces de ce spectacle, c'est sa scénographie, qui est à la fois extrêmement simple, mais qui moi je trouve fait l'un des usages notamment de la vidéo les plus intelligents que j'ai pu voir cette saison. On a cette Judith Chiemla en pucelle, seule dans un octogone de lumière, assise sur un petit banc. Elle va être jugée, le texte qui a été travaillé, c'est les minutes du procès de Jeanne d'Arc, la langue de 1431. Elle est là avec sa gouaille, sa rage, puisqu'elle est mise en procès par l'Église du côté de ses ennemis, les Anglais. Elle est seule sur scène. Elle a, dans sa voix parlée, quand elle interprète Jeanne, cette espèce d'intensité complètement bouleversante de celle qui sait ce qui lui est arrivé, qui sait que Dieu lui a parlé, qui n'a pas à s'expliquer. Et puis, surgit, toujours en octogonale, en fait, en haut, une vidéo qui a été enregistrée avec des grands acteurs français, notamment un génial Jacques Bonafé. Et ce sont ses juges. Là, ça a été enregistré. C'est-à-dire que c'est une vidéo enregistrée avec laquelle elle va dialoguer. Ces juges, qui sont des prélats dans des tenues plus riches les unes que les autres, se retrouvent face à nous. Et entre les deux, en arrière-scène, on a six musiciens qui jouent et qui chantent dans cet oratorio, qui sont dans une espèce de pénombre. La lumière, le travail sur la lumière est assez bouleversant, qui vont accompagner toute cette scène pendant 1h20 et qui fonctionne un peu comme l'intimité de Jeanne d'Arc, qui, après des échanges de plus en plus virulents avec cette église qui veut lui faire dire qu'elle est hérétique, alors qu'elle elle est persuadée de sa propre vérité, de ce qui lui est arrivé, vont fonctionner un peu comme une espèce de caisse de résonance, comme le lieu de son intimité et de sa vérité. Et donc, on a ces juges qui sont donc évidemment en vidéo, qui sont face à nous et qui sont toujours en surplomb comme ça, au fur et à mesure que l'intrigue avance. Et nous, on se retrouve comme elle, jugée, et elle est seule, nue, qui se débat face à nous, public, face à ses juges, avec cette alternance entre cette voix parlée et cette voix chantée, dont elle est arrivée à une maîtrise, Judith Chiemla, de cet équilibre entre les deux, qui est complètement bouleversant et qui sert complètement ce propos de cette femme qui a une vérité et qui est écrasée par le monde et par le patriarcat. Voilà.
Anna Sikelevitch, vous êtes d'accord, je le sais, avec Zoé sur ce qu'elle vient de dire. Ce que vous disiez au début, c'est que tout concorde, tout fonctionne, même la musique, tout de ce qu'a fait, je vais citer, pardon, Camille Rocailleux, voilà le compositeur. Tout est là, tout est présent.
Oui, tout est présent et de façon très intelligente et subtile. Hein, c'est-à-dire qu'on vraiment on glisse de la voix parlée à la voix chantée. Comme le disait très justement Zoé, moi j'ai ressenti la même chose. On accède à l'intimité du personnage de Jeanne par la musique. Bah, j'ai même eu le sentiment que en fait la musique, bah, en fait c'était l'incarnation. C'est par là que passe la parole de Dieu, la parole du divin. Et ça raconte aussi quelque chose de beau par rapport au spectacle. C'est par l'art qu'on accède à soi, c'est par l'art qu'on accède à la vérité, et la musique permet aussi d'exprimer ce que n'expriment pas toujours les mots et le ressenti et la conviction de cette jeune femme donc qui est Jeanne. Ça, c'est quand même assez magnifique. La musique, elle est très bien écrite parce que là aussi on traverse les siècles. Par moment, là, ce qu'on a entendu la première fois au début, il y avait pas mal de dissonances. On peut penser à Shostakovich, à des choses avec des cuivres puissantes, avec des cordes assez dissonante. Là, ce qu'on entendait, c'était beaucoup plus mélodique. Il y a aussi des moments où on pense à toute la musique religieuse de Poulenc, par exemple. Moi, j'ai pensé à O Litania, la Vierge Noire. Enfin, c'est très référencé. C'est une musique qui est très savante et très cultivée, mais qui est en même temps très accessible. Et le fait que on traverse les siècles de façon musicale aussi, et ça parle à un imaginaire collectif, celui du public, eh bien, ça raconte. C'est juste parce que ça raconte aussi le personnage de Jeanne qui traverse les siècles, les époques, et que chaque écrivain ou cinéaste au fil des siècles se réapproprie et raconte sa Jeanne et ce qu'elle peut nous raconter aujourd'hui. Donc Zoé disait, c'est bouleversant. C'est vrai que ce qui est très touchant, c'est que on comprend en fait la vérité du personnage et la façon dont il se réinvente au fil des siècles. C'est très juste.
Zoé Sfez, elle incarne la Judith Chiemla, une jeune femme, il faut le rappeler, qui est emprisonnée, qui a faim, qui a été maltraitée. Vous disiez qu'elle est presque à moitié nue quelque part, c'est-à-dire en tout cas elle est dans un dénuement terrible. Comment elle incarne cela, Judith Chiemla?
Bah alors justement, moi c'est peut-être ma micro-réserve, mais en même temps, je veux dire, il y a une cohérence totale de ce spectacle. Elle est habillée en homme, elle a ce fameux pourpoint d'homme. Là encore, sur le travail, sur les costumes, en fait ce qui est très impressionnant avec ce spectacle, c'est qu'on sent qu'il a vraiment été très travaillé. Son costume évoque un pourpoint de 431 et en même temps, ça pourrait être une veste des années 20 ou du 16e siècle ou d'aujourd'hui. Mmh. Et on n'arrête pas de lui demander d'ailleurs pour prouver qu'elle est soumise à l'église dite militante. On est vraiment aussi, ça c'est très important, dans une langue qui est une langue de l'époque. Et donc que je dis Tiemla se réapproprie. Les prélats la parlent avec une forme de préciosité qui est celle de leur rang. Et elle, Judith Tiemla, elle a cette voix de pucelle, cette voix qui a quelque chose de très enfantin quand elle est dans une voix parlée. Et puis elle crie parce qu'elle se défend et parce qu'elle est à la fin, elle est au fond d'un trou. Ça c'est très bien raconté, c'est très bien mis en image. Et puis il y a effectivement ce glissement qui se fait presque sans qu'on s'en aperçoive, mais qui parfois pêche un peu. C'est-à-dire que plus
la voix, vous voulez dire ?
Vers la voix chantée. C'est-à-dire que plus l'action va être violente, plus elle s'avance vers la mort, plus la douceur, le réconfort de la musique contraste avec ce qu'elle joue, c'est-à-dire une détresse terrible parce qu'elle va tout traverser, Jeanne, elle va essayer de se soumettre à ses bourreaux, et puis finalement elle peut pas, elle n'y arrive pas parce qu'elle a sa vérité à elle. Bon, évidemment, ce qu'il y a de fort dans ce spectacle, et on va revenir sur la musique, c'est Judith Tiemla, parce que Judith Tiemla aussi, on sait qu'aujourd'hui, elle porte un combat sur les violences contre les femmes, qui a été largement médiatisée et qui lui fait complètement honneur. Donc évidemment que quand c'est Judith Tiemla qui se réapproprie cette figure de Jeanne d'Arc, il se passe quelque chose, d'autant plus que c'est une figure qui a beaucoup été quand même explorée soit par l'extrême droite, soit au cinéma récemment par des films épiques qui racontaient finalement pas grand-chose de cette figure. Là, c'est très beau de la voir, elle, porter cette figure qui est à la fois hyper puissante et complètement vulnérable. Je reviens aussi sur la musique et sur ce que dit Anna très justement, cette musique de ce compositeur, donc voilà, Camille Rocailleux, qu'on peut vraiment saluer, et l'ensemble qui le porte, parce qu'il n'y a que 6 musiciens et musiciennes sur scène, ça c'est complètement fou, qui jouent chacune 2 à 3 instruments, il y a du cor, il y a du violon, il y a de l'alto, il y a des percussions, et qui chantent, ce qui fait qu'il y a quelque chose, il y a une intensité dans le son qui est produit, qui est presque inversement proportionnelle à ce qu'on voit sur scène. C'est vraiment la beauté de ce spectacle, ces petits objets de poche opératiques, oratoriennes, qui fonctionne très très bien, notamment parce que justement il y a ce resserrement. Voilà, ça nous permet quand même nous de regarder Judith Tiemla dans une posture qui est une posture voilà de femme qui co-conçoit ce spectacle, qui le porte, et ça nous permet aussi, si ça nous intéresse, de nous intéresser à cette figure de Jeanne d'Arc qui, moi, faut le dire, m'intéresse pas beaucoup à la base. Il y a des moments où je reste à distance parce qu'il est quand même essentiellement question de Dieu, et donc après il faut remplacer toute une foule de référentiel. La question, c'est qu'est-ce que l'église militante, qu'est-ce que la vraie église, qu'est-ce que la vraie foi. Parfois, on reste à distance, et puis parfois, notamment grâce à la musique et grâce à cette présence intense de Judith Tiemla, on y revient toujours. Donc, ça fonctionne extrêmement bien.
Anna Sigalevitch.
Oui, bah je suis tout à fait d'accord avec Zoé. Moi, sur le côté le rapport à Dieu et le sujet tout simplement de Jeanne d'Arc, là encore, je trouve que c'est très subtilement fait, parce que pour moi, on est ailleurs. Je veux dire, qu'on s'intéresse au sujet ou pas, justement par le fait que ce soit la musique qui prenne beaucoup en charge le côté mystique et sacré, on touche à l'universel et à la beauté tout simplement d'un personnage touché par la grâce et habité. Peu importe ce qu'on en pense, enfin, je trouve que c'est même pas le problème, le sujet ou le propos, c'est la façon dont c'est transmis et traduit scéniquement et dramatiquement. Et puis sur le fait que ce soit Judith Tiemla, alors c'est vrai que bon, moi je dois dire que j'ai vu, je pense à peu près tous ses spectacles depuis qu'elle a 18-20 ans, donc ça fait un moment maintenant. Et j'étais un tout petit peu inquiète de voir ce spectacle parce que je me disais bon, j'avais énormément aimé l'annonce faite à Marie, qui avait été montée par le même quatuor, parce que c'était aussi le même scénographe, en plus de la musique et de la mise en scène. Et il y avait même aussi un acteur il y avait Jean-Claude Drault déjà à l'époque. C'était un spectacle qui m'avait énormément plu. Et je me disais, mais comment est-ce que Judith Tiemla, qui en effet chargée de tous ces combats, comment est-ce qu'elle,
comment est-ce qu'elle va retrouver et offrir une forme de fraîcheur et de candeur au spectateur, comment elle se positionne en scène aujourd'hui pour un spectacle comme celui-là. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle n'a rien perdu de sa fraîcheur, de son innocence. Elle a 40 ans aujourd'hui, elle joue une fille de 19 ans, on ne se pose absolument pas la question. Et elle a toujours ce mélange d'extrême précision, parce que c'est hyper construit la façon dont elle propose son personnage. Hein. C'est vraiment, c'est pas une incarnation comme ça, c'est d'une subtilité. Le travail sur la langue, sur la position, sur l'adresse, tout est vraiment très 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 savamment étudié et en même temps riche de toute son histoire, de tout son parcours. Il y a toutes ces couches et en même temps la fraîcheur, la spontanéité, le naturel essentiel à ce personnage sont intacts.
Et donc c'était Le procès de Jeanne, c'est jusqu'au 16 février au Théâtre des Bouffes du Nord et c'est un spectacle conçu par Judith Chemla et Yves Bonnen. Il y aura une tournée évidemment, tout ça c'est sur la page des Midi de Culture. Così fan tutti, non, ma langue n'a pas fourché. L'opéra de Mozart disait così fan tutte, et elles font toutes comme ça. Le metteur en scène Antonio Cuenca Ruiz, lui, dit aujourd'hui così fan tutti, tout le monde fait comme ça, dans sa libre adaptation. Les hommes, les femmes sont faits du même bois et du même désir. Là où, dans le livret de Lorenzo da Ponte, deux jeunes hommes se grimaient pour mettre la fidélité de leur fiancée à l'épreuve, sur la scène de l'Athénée, les femmes savent très bien ce qu'il en est et participent activement à ce jeu. Mais la musique, me direz-vous, eh bien là aussi, il fallait oser y toucher. C'est ce qu'a fait Maël Bailly en intégrant joyeusement de la guitare électrique, du saxo et même des ondes Martenot. On commence par un avis rapide, Anna Sigalevitch.
Alors, si je reconnais vraiment de belles qualités musicales dans l'adaptation et dans l'interprétation, il y a un immense travail qui a été fait, incontestablement. Je suis beaucoup plus réservée sur la dramaturgie, qui, à mon sens, ne tient pas ses promesses et, je dirais même, ne tient pas tout court.
Ah, Zoé, Sfez.
Oh, je respecte l'avis d'Anna, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je vais être assez dithyrambique sur cette entreprise de réécriture, de modérisation d'un opéra qu'on connaît très bien, dans un parti pris de mise en scène qui, parfois, a des petits moments où on se perd un peu, mais qui, de manière générale, est extrêmement pertinente pour cet opéra particulièrement. Il y a de la modestie, il y a de l'inventivité, il y a énormément d'intelligence, et ça ne dissout pas du tout la partition de Mozart, qui est totalement réécrite. Au contraire, je trouve que ça montre à quel point elle est résiliente.
Alors, on va écouter tout de suite un petit extrait de Così fan tutti. Così fan tutti sur la scène du théâtre de l'Athénée à Paris. Anna Sigalevitch, vous, c'est pas le fait qu'on ait osé toucher à la partition de Mozart qui vous pose problème, c'est plutôt l'intrigue en fait qui fonctionne pas pour vous.
Oui, oui, non, le fait qu'on touche à la partition, moi je suis pas du tout une puriste, hein, donc je pense qu'on a le droit de faire absolument ce qu'on veut quand on monte en spectacle. Il y a aucun problème avec ça. On a le droit de tordre les livrets, on a le droit de raconter ce qu'on veut. Il faut juste écrire d'après Mozart et d'après da Ponte. Là, c'est en l'occurrence tout à fait ce qui est fait, donc je n'ai aucun problème là-dessus. Mais en fait, j'ai eu un sentiment très déceptif parce que Pour moi, le problème majeur de Così fan tutte, c'est le livret, qui est extrêmement compliqué. Hein. Je rappelle un tout petit peu, quand même, en quelques mots, l'intrigue. Don Alfonso prend à partie deux jeunes gens qui sont Guglielmo et Ferrando. Il leur dit « Ah, mais vos femmes sont pas fidèles. Aucune n'est fidèle. » Il dit « Bah si, les nôtres, elles sont super fidèles. Ok, on parie. » Très bien. Donc, ils font semblant de partir à la guerre. Les deux filles, les deux sœurs qui sont Fior di Ligi et Dorabella sont complètement désespérées. Et puis, sitôt partis, ils reviennent déguisés en albanais et elles résistent un peu. Bon, surtout une plus que l'autre. Et puis, finalement, elles finissent par succomber toutes les deux. Donc, comment raconter cette histoire aujourd'hui? En effet, c'est compliqué de par la crédibilité et aussi de par le rapport aux femmes et ce que ça propose quand même, parce que Così fan tutte, ainsi font-elles toutes, on peut dire aussi toutes les mêmes, quoi. Oui, en gros, c'est à peu près ça.
Poliment dit même.
voilà, on peut dire, même si, bon, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de subtilité que ça, et même dans le livret de Da Ponte, qu'il ne faut pas non plus réduire uniquement à ça, parce que c'est quand même un opéra d'une richesse immense. Donc j'étais très curieuse de découvrir le spectacle. Et malheureusement, j'ai été déçue parce que autant je trouve que l'adaptation musicale est très inventive, que c'est, il y a plein de trouvailles. Enfin, on y reviendra peut-être en donnant des exemples pour certains airs qui moi m'a plutôt enchantée et beaucoup amusée. Mais en revanche, d'un point de vue dramaturgique, je trouve que ça ne tient pas parce que, alors déjà, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de neuf. Alors, est-ce que c'est de ma faute parce que j'ai vu trop de Così fan tutte et que j'ai vu aussi des versions très modernisées de Così fan tutte? Mais en gros, là, le postulat, c'est une soirée entre jeunes gens qui se retrouvent, ils sont à visage découvert et ils vont rentrer dans une sorte de jeu de rôle où les filles ne vont plus subir la situation, mais elles seront complètement protagonistes, voire c'est elles qui vont tirer les ficelles de l'action. Bon, pourquoi pas? Mais ça, c'est un postulat de départ. Comment ça joue? Je trouve que ça joue de façon très moyenne, un peu superficielle, très formelle. Pour moi, on est plus dans le gag et dans le gadget que dans une réelle dramaturgie qui se développe et qui tient. Alors, c'est vrai que le côté à visage découvert, quand même, on l'a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. Je pense à Anneke, il y a une dizaine d'années. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est que l'année dernière, on a vu un Così fan tutte mis en scène par Dmitri Tcherniakov, où le concept n'était pas du tout éloigné. Alors, c'était l'œuvre de Mozart complètement, avec le livret et avec la musique, pas du tout adaptée. Mais c'était l'idée de deux couples, alors un peu vieillissants, mais qui se retrouvaient pour un week-end échangiste et pour raviver la flamme de leurs amours perdus. Bon, ça, c'était il y a un an et demi au Festival d'Aix-en-Provence et au Châtelet. Donc, c'est très compliqué de voir un peu la même chose, mais à mon avis, de façon beaucoup moins profonde et beaucoup moins construite dramatiquement. Je dis pas du tout qu'ils ont pompé ou qu'ils ont copié, pas du tout. Mais
ça, je trouve
que ça se passe comme ça dans la chronologie des spectacles et des spectateurs qu'on est. Et donc, c'est quand même problématique.
Zoé Sfès, pas du tout d'accord, on le sait déjà.
Non, pas d'accord, même si j'ai vu aussi, comme Anna, la mise en scène de Così fan tutte l'année dernière au Châtelet. C'était hyper intéressant parce que, effectivement, bon, ce livret, aujourd'hui, il avait déjà énormément, c'est un livret hyper cynique, hyper acerbe, le livret original est d'une intelligence et aussi d'une forme de modernité quand même assez bouleversante. L'histoire du déguisement, en fait, où ces jeunes gens, plus personne ne croirait aujourd'hui que vous pouvez séduire quelqu'un en étant déguisé, donc de toute façon tout le monde s'en débarrasse plus ou moins. Là, c'était un côté entre échangiste et expérience, genre Love is Blind sur Netflix, la mise en scène qu'on a vue l'année dernière, dans un truc hyper épuré, on était dans un Airbnb et on était avec la partition de Mozart. Là, ce que j'aime bien, moi, c'est que il y a vraiment quelque chose qui fonctionne entre l'adaptation du livret, la manière dont on traduit les quelques parties du livret qu'on a gardées, d'ailleurs il y a des prises de liberté, des modernisations, et la manière dont ça fonctionne avec la musique, parce que l'idée c'est pas uniquement de dire que les filles ont pris le pouvoir, c'est de vraiment se plonger dans quelque chose qui est beaucoup plus 2024, je trouve, que ces mises en scène un peu moderniste qu'on a vu ces derniers temps, si merveilleuse soit-elle, parce que là on est vraiment pas sur de l'échangisme de personnes âgées, on est vraiment sur quelque chose qui est très proche de ce qui se passe en 2024 2024, c'est-à-dire il faut qu'on joue, il faut qu'on profite, certes on s'aime, mais on est censé être un peu polyamoureux parce que le monde dehors est très violent et que les seuls endroits d'expérimentation, c'est ça. Ça existe dans cette transposition, dans ce parti pris de mise en scène. Il y a des petits intermèdes, interludes, épilogues où il y a une cacophonie du monde extérieur, on parle de la guerre, on parle de Gaza, et donc ça, c'est vraiment 4 personnes, 6 personnes qui se retrouvent à vouloir faire des jeux, à vouloir tenter des choses, à vouloir être un peu déconstruits. Il y a un peu de ça, parce qu'évidemment, il y a des moments queer qui affleurent dans toute cette histoire. Et je trouve qu'au contraire, ça fonctionne plutôt très bien, alors que j'avais un peu peur, moi, du parti pris. On va changer, on va mettre les filles au centre, qui, on l'a vu avec énormément d'opéras ces dernières années, fonctionne pas très bien. Là, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a vraiment une adaptation aussi de la musique, voilà. D'à peu près tout, en réalité. On coupe des larges parties de l'argument. C'est un spectacle de quasiment 3 heures sans entracte. On se débarrasse en fait de la formalité de l'opéra et on garde une forme de substantifique moelle qui fonctionne d'autant mieux avec la musique. On va en dire un mot.
Oui,
alors je laisse Anna y revenir.
Ouais, on va y aller vite parce qu'il nous reste peu de temps, Zoé. Je suis
désolée. Miroirs étendus, super, super collectif. On a des percussionnistes qui utilisent des sèches-cheveux, qui utilisent des ondes Martenot. On a de la guitare électrique. On a différents saxophones. Donc on est vraiment sur une espèce de disruption, on va dire, du son. Une partition hyper bien écrite, hyper légère, qui fait qu'on n'a jamais les tutti orchestraux de Mozart, mais aussi on sort de la mécanique mozartienne qui peut parfois, qui à la fois vous bouleverse émotionnellement, mais qui peut parfois vous sortir. Et là, on a des moments où on a des airs entiers a cappella. On a le grand air de Fiordiligi, porté par une superbe soprane, parce qu'il y a des très bons chanteurs, et notamment Fiordiligi, qui va être non pas dans un grand air soutenu par un orchestre, mais quasiment a cappella, puis en duo avec un saxophone. Et là, je trouve que la partition, en fait, et le parti pris de mise en scène sont forts. Parce qu'au début, on se dit, ça va être hyper drôle, il y a de la résie, il y a des jeux de BDSM. Et en réalité, cette adaptation musicale, en réalité, elle donne beaucoup de gravité à ce spectacle.
Je donne la parole, le mot de la fin à Anna. Je suis désolée de vous presser comme ça.
Je vais vite, mais juste pour cette scène. Alors ça, c'est vrai que c'est une belle scène, mais on l'avait vu il y a quelques années dans La Clémence de Titus, dans la mise en scène de Peter Sellars. Donc là, à nouveau, pas une découverte. Je suis désolée. Hein. Et le metteur en scène travaillait sur ce spectacle avec Peter Sellars. Donc voilà, bon, il a le droit de faire des hommages à Peter Sellars, c'est pas interdit, mais bon, voilà, c'est pas nouveau non plus. C'est vrai que, en revanche, pour l'adaptation musicale, il y a beaucoup d'inventivité. Je trouve que c'est une très très bonne idée, l'ouverture avec des sortes de borborismes, le grand air Suave sia il vento. Pour le coup, il est complètement instrumental. Les parties a cappella font la part belle aux chanteurs. C'est très amusant, les récitatifs avec des riffs de guitare. Mmh. Enfin, ça fonctionne. Et d'ailleurs, l'extrait qu'on a entendu,
c'est Maël Bailly, hein, l'adaptation, voilà. On va le rappeler.
Je trouve que rend pas complètement justice. Ça déroule de façon très réussie dans le spectacle, encore mieux que ce qu'on a entendu là comme extrait.
Mmh. On peut continuer, hein. On a encore un tout petit peu de temps. Pardon, je vous ai pressé, en fait, un peu de temps.
Je vous en prie. Non, voilà. Alors, parler des chanteurs, effectivement, qui sont très très engagés et qui sont très bien. Il faut citer quand même Margot Poguet qui chante Fiordiligi. C'est une voix extrêmement large, extrêmement riche, avec beaucoup d'intensité. Dora Bella aussi, qui est incarnée par Mathilde Orchey, qui a aussi une très belle présence. Là encore, pardon, je suis désolée, mais je trouve qu'ils sont très très mal habillés et qu'ils sont ils sont vraiment pas à leur avantage. L'esthétique est un peu régie-théâtre, un peu martalaire, mais pour moi, enfin, je sais pas comment dire. Je vois plein de citations, plein de références, mais pas une vraie vision. Voilà.
Et donc, c'était Così fan tutti, c'est au Théâtre de l'Athénée, à Paris, jusqu'au 9 février. Zoé Sfez, merci beaucoup et soignez-vous. Anna Sigalevitch, merci infiniment d'être venue sur le plateau pour nous donner vos avis. Toutes les infos, c'est sur la page des Midi de Culture.